CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Alors, on a Stéphane Battle avec nous par téléphone du Grenier Théâtre qui met en scène L'étranger avec Laurent Colombet ce soir sur la scène du Théâtre Olympe de Gouges. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un seul personnage sur scène pour jouer L'étranger.
Tout à fait, tout à fait. On est parti avec Laurent Colombert qui est le Grenier de Toulouse, donc, sur une recherche à partir de ce roman qui parle d'un homme seul, qui regarde le monde à travers son prisme, à travers ses difficultés à être avec les autres, et donc un personnage central. Donc ça appelait un seul acteur seul en scène.
D'accord. Alors comment on fait vivre ça pendant une heure et quart, une heure vingt? Comment on fait vivre ce spectacle au travers le théâtre et sa mise en scène?
Ben, très facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne l'a pu le croire. Meursault, quand on le lit, effectivement, a l'air d'un personnage insensible, froid, dur. On est parti du postulat que c'est pas parce que Camus ne décrit pas ses réactions que Meursault n'en a pas. Et fort de ce départ, on s'est rendu compte que Meursault, au contraire, avait toutes les libertés pour réagir. Camus, grand homme de théâtre s'il aimait, responsable de compagnie, metteur en scène, comédien, auteur dramatique, connaissait tout du monde du théâtre. Et on est parti comme un acteur part sur un plateau. Il part, non pas actif, mais réacteur, pas acteur, mais réacteur, aux autres et à ce texte. Et fort de son expérience, Laurent Colombert se laisse réagir par Albert Camus. C'est presque lui qui le dirige sur le plateau au travers des situations, l'enterrement, la mort de la mère, les rapports amoureux, etc. Et on voit Meursault qui prend vie pleinement.
Et est-ce qu'il y a d'autres, au niveau du texte, d'autres personnages même enregistrés, des voix, des choses comme ça qui apparaissent dans votre spectacle?
Non. C'est Laurent qui se laisse aller au texte, qui est un très grand comédien et qui, au départ, part du texte, comme on est parti nous-mêmes, et petit à petit, il va dessiner tout un paysage. Il y a des petites astuces de mise en scène, évidemment, mais c'est lui qui se laisse réagir au travers de ses rencontres et tel qu'il les vit. Et petit à petit, bah, évidemment, on a droit à une palette de personnages truculents et surprenants.
D'accord. Le texte de l'ouvrage de Camus est, j'imagine, pas respecté à la lettre.
Non, on n'a pas pu, sinon ça faisait 3 heures, ou 2h55 exactement. C'était un petit peu longué, donc on a dû faire des choix qui finalement sont venus d'eux-mêmes. Chaque scène est tombée d'elle-même, évidemment la plage, évidemment l'enterrement, évidemment le rapport à Marie, évidemment les grands moments cruciaux, qui finalement ressemblent terriblement à des grands exercices de théâtre, dans lesquels l'acteur se laisse aller sous la direction de Meursault. Il s'échoue, marche sur une plage, on rencontre, il y a des pulsions, des impulsions, et tout ça, l'acteur se laisse envahir par tout ça. Donc, ça dure 1h30, et c'est à peu près donc la moitié finalement du roman qui est choisi.
Alors, il y a eu déjà une représentation qui a eu lieu aujourd'hui à 14h, la prochaine c'est ce soir à 20h30. Et c'est sur la scène du théâtre Olympe de Gouges. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Battle, pour en parler sur CFM. Merci à vous.
Avec grand plaisir, merci, au revoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Allez, on revient à cette correspondance entre Camus et Roger Martin Dugard, si vous voulez bien, Claude Sicard.
Oui, avec plaisir.
Elle s'étale sur combien de temps?
Elle s'étale de 44 à 58, qui est la mort de la date de la mort au mois d'août 58, la mort de Martin Dugard.
Hein. Ouais.
Voilà. Donc il y a une soixantaine de lettres, mais autour de ces lettres, je me suis attaché justement parce que nous avions relativement peu de documents, parce que quand Martin Dugard était à Paris, où vivait Camus le plus souvent, sauf lorsqu'il devait se soigner pour l'attaque de tuberculose qu'il a eue dès l'âge de 17 ans, et tuberculose qu'il a habité, n'est-ce pas, toute sa vie, et qui explique l'énergie qu'il a mis, l'effort qu'il a fait pour seulement vivre, pouvoir respirer, dit-il, et pouvoir m'exprimer. Hein, il y a cela chez Camus, cette volonté de vivre. Donc, il avait un appartement à Paris, il occupait un emploi de lecteur depuis 1943 chez Gallimard, donc il se trouve qu'il se voyait assez souvent avec Martin Dugard. Donc, ce qui explique le nombre relativement faible des correspondances. Alors autour d'elles, justement, pour les éclairer, je me suis attaché à apporter quantité d'éclaircissements puisés dans d'autres correspondances, dans des fonds d'archives, etc. Et puis j'ai donné en annexe aussi des pièces qui peuvent éclairer le contexte même de cette correspondance.
Qu'est-ce qu'on apprend finalement en lisant ces deux hommes de lettres ?
On apprend l'essentiel, je crois. C'est-à-dire que la vie est peu de choses, mais que rien ne vaut une vie. On apprend que c'est la leçon du docteur Rieux dans La Peste. Chose extraordinaire d'ailleurs, je le dis entre parenthèses parce que je ne l'ai vu encore signaler nulle part, c'est que le véritable héros des Thibault, ce n'est pas Jacques Thibault qui meurt jeune, comme je vous le disais tout à l'heure, son avion a été abattu en flammes au-dessus des lignes qu'il espérait conquérir à l'idée de la paix, hein. Et donc il meurt d'une façon lamentable, il est pris pour un espion par les propres Français qui finissent par l'exécuter. Bon, donc le docteur Rieux est, si vous voulez, le frère du docteur Antoine Thibault. Il y a au cœur de la quatrième partie des Thibault la consultation. C'est la consultation, c'est une journée du médecin. Et on voit un peu tous les combats que mène le docteur Antoine Thibault près des humbles, près des enfants, près des parents qui viennent de perdre un enfant. Or, on sait l'importance de la mort de l'enfant dans La Peste, par exemple. Et le docteur Rieux dit, et je crois que c'est un mot important, l'essentiel c'est de bien faire l'homme. Déjà c'est la leçon de Montaigne, si vous voulez, bien faire l'homme et dûment, bien faire son métier d'homme, d'une part. D'autre part, c'est une leçon de morale littéraire, si j'ose dire. On apprend la grande conscience que l'un et l'autre attachaient à leur responsabilité d'écrivain. Et ça, c'est capital. C'est leur responsabilité d'écrivain, ça ne signifie pas qu'ils s'imaginaient connaître un jour la gloire. La gloire, je sais que c'est peu de choses, dit Camus après le succès phénoménal de La Peste qui l'a étonné lui-même, pour ne rien dire de l'attribution du prix Nobel en 57. Donc on apprend cela, la dignité d'une œuvre qui ne ment pas. Camus répète constamment que son désir, c'est la vérité. Ne pas mentir avec les mots d'ordre, ne pas mentir en faisant croire aux hommes à une vie idéale, qu'il s'agisse ici d'une promesse de la religion ou qu'il s'agisse d'une promesse politique. Vous savez, les lendemains qui chantent des pays de l'Est, au-delà de la Révolution. Il s'agit de vivre à hauteur d'homme, mais de vivre pleinement.
Et quel regard ils portent chacun sur leurs contemporains, sur le monde, sur les hommes, justement?
Eh bien, comment être optimiste, bien entendu, mais ils ne veulent pas désespérer malgré tout, et en particulier, on les voit tous les deux militer pour... Eh bien, ce qui est en train de se passer, vous demandiez tout à l'heure pourquoi on est autant attiré par Camus, mais la construction d'une Europe. Quelle chance peut avoir une Europe au-dessus des nations? Il ne s'agit pas de supprimer l'indépendance des nations, mais il s'agit d'aller vers une sorte de fédération des nations, avec un parlement qui serait et qui prendrait des décisions pour l'ensemble des Européens.
Sortir. Il parle de ça dans leur correspondance.
Oui, un petit peu. Ouais. Au début en particulier. Oui. Parce que Martin Dugard avait lu le livre de quelqu'un qui était un Hongrois réfugié depuis 41 aux États-Unis. Qui a écrit un livre qui s'appelle Emery rêve comme un rêve mais avec un S, Reves, et il avait publié un livre qui s'appelle Anatomie de la paix, et ils en parlent dans leur correspondance. Camus aussi l'a lu, peut-être à l'instigation de Martin Dugard d'ailleurs, et j'ai été ému de trouver dans la bibliothèque de Martin Dugard, dans sa propriété près de Bellême dans l'Orne, deux exemplaires d'une traduction française du livre Anatomie de la paix. Donc ils essaient de peser ce qui peut faire espérer encore à une harmonie possible entre les hommes. Il faudra peut-être 100 ans. Il ne se dissimule pas la difficulté de la chose, mais on ne peut pas, si vous voulez, la grande leçon de l'un comme de l'autre, c'est qu'il ne faut pas désespérer. On ne va pas, dit Camus, notre ambition n'est pas de refaire le monde, mais c'est de faire qu'il ne se défasse pas. Pas le refaire, mais éviter qu'il se défasse. Et leur dernier mot, c'est confiance à la jeunesse, confiance à l'enfant. Nous n'allons pas sauver peut-être les hommes, nos contemporains, mais nous sauverons peut-être leurs enfants ou leurs petits-enfants. Le dernier mot de l'épilogue des Thibault, c'est le prénom du fils de Jacques, le fils posthume de Jacques, qui s'appelle Jean-Paul. Eh bien, Antoine Thibault va mourir gazé en 1918, à quelques jours de l'armistice, ironie du destin, n'est-ce pas ? Et il tient le journal, il est médecin, donc il tient le journal des progrès du mal dont il se sent atteint et dont il sait qu'il va mourir. Et au moment dernier où il dit, il est temps, maintenant il sait ce qu'il doit faire pour que la mort ne l'atteigne pas. Il a une piqûre, il s'administre une intraveineuse dont il sait qu'il ne va pas réchapper, mais en pleine lucidité, il se donne la mort pour ne pas, si vous voulez, donner à la mort, l'autre dirait la peste, si vous voulez, des chances. Mmh. Voilà, c'est lui, c'est la chance de l'homme. Et son dernier mot, il griffonne à la fin, Martin Dugard imagine qu'à la fin de son journal, Antoine met Jean-Paul. C'est donc un message qui est adressé à la jeunesse. Et il faut savoir que l'épilogue des Thibault a été publié en 40, au moment même où la Deuxième Guerre mondiale était déclenchée.
Vous rencontrerez le public, ou le public pourra vous rencontrer autour de ces correspondances.
Samedi, donc.
Ce sera samedi à 14h30 à l'Ancien Collège. Oui. C'est gratuit. Réservé auprès de Confluence au 05 63 63 57 62, c'est plus prudent.
Ce sera très prudent, je crois, oui.
Merci beaucoup, Claude Sicard, d'être venu nous en parler ici.
J'étais très heureux de vous en parler de nouveau.
Avec plaisir, au revoir.
Merci.
Une émission que vous pourrez retrouver en podcast dans quelques minutes sur cfmradio.fr. CFM, il est 17h30.